Imaginons un instant un pays où, disons, l'extraction minière représente plus de la moitié de tout ce qu'il vend au reste du monde.
C'est énorme.
C'est gigantesque. Une richesse qui sort directement de la terre, exportée par tonnes chaque jour. Et logiquement, on s'attendrait à ce que cet endroit regorge d'infrastructures modernes, d'écoles flambantes neuves, d'hôpitaux de pointe.
Bah oui, ça semble être la suite logique.
Sauf que, et c'est là que ça devient fou, cette industrie colossale ne contribue même pas à 8% des revenus fiscaux de l'État.
8% seulement?
Seulement. L'argent s'évapore. Les écoles s'effondrent. C'est pas une fiction, en fait. C'est une réalité très bien documentée et c'est exactement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau décryptage en profondeur.
Je suis ravie d'être là pour en parler parce que c'est un sujet... Enfin, c'est un sujet fascinant et assez inquiétant.
Totalement. En fait, on a souvent l'habitude de percevoir un État, une nation, un peu comme une machine extrêmement complexe. Vous voyez, une machinerie gigantesque avec des milliers d'engrenages. Tant que tout est bien huilé, on ne remarque même pas le bruit du moteur.
Exactement. Le moteur tourne tout seul.
Mais parfois, il manque des boulons fondamentaux. Et la machine ne s'arrête pas net. Elle continue de tourner, mais en grinçant. Et puis, un choc externe survient. Une pandémie, une crise économique, et là...
Et là, la structure vole en éclats. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui.
Voilà. Notre mission pour cette plongée au cœur des sources, c'est de comprendre l'anatomie de cet effondrement. On va s'appuyer sur un séminaire très pointu de mai 2026, organisé par le CIFED et dirigé par Michel-Henri Bouchet. L'objectif, c'est de voir comment on passe d'un état affaibli à un état totalement défaillant.
Ce qui est très intéressant dans les recherches de ce séminaire, c'est que ça remet complètement en question notre perception des crises. Quand un pays s'effondre aux infos, on a l'impression que c'est une explosion soudaine.
Ah oui, on voit le chaos immédiat, les manifestations, tout ça.
C'est ça. Or, les données montrent que c'est pas du tout un accident imprévisible. C'est en fait le résultat d'une dégradation très graduelle. C'est une usure lente, nourrie par des institutions fragiles et, bien sûr, par la corruption. Le choc externe, c'est juste le coup de grâce.
La rouille avait déjà détruit les fondations.
Absolument. Le bâtiment était déjà prêt à tomber.
Mais alors, avant d'en arriver à ce point de rupture complet, à quoi ça ressemble, concrètement, cette usure, dans la société? Les documents parlent d'état faible et le définissent par son incapacité ou même son refus de fournir des biens communs vitaux.
Oui, et la liste de ces biens communs est assez frappante. On parle de santé, donc d'espérance de vie, d'éducation, de sécurité alimentaire ou même juste de l'eau potable.
Les bases, quoi.
Les bases absolues. Et quand un gouvernement arrête de fournir ça, une mécanique infernale s'enclenche, les institutions deviennent opaques, le pouvoir se concentre chez une petite minorité et la répression augmente.
Pour faire taire ceux qui se plaignent du manque d'eau ou d'école.
Exactement. L'État perd sa légitimité, donc il utilise la force. Et la trajectoire montrée dans le séminaire est super claire. État faible, ensuite coup d'État aux guerres civiles, et enfin la transformation en État défaillant ou en État voyou.
Un État qui ne respecte plus aucune règle. Mais ce qui m'a marqué dans les notes du séminaire, c'est l'argument du « cette fois, c'est différent ». Pourquoi la situation actuelle est-elle pire qu'avant?
Parce qu'il y a une convergence mortelle de plusieurs facteurs économiques en ce moment. Avant, un État fragile pouvait être sauvé par un bon contexte mondial.
Une bouée de sauvetage économique.
Voilà. Mais aujourd'hui, ces pays font face à des dettes colossales en devises étrangères, une croissance faible, des taux d'intérêt très élevés et l'explosion des prix de l'énergie et de l'alimentation.
C'est un étau. Soit on paye les intérêts de la dette, soit on achète du blé pour la population.
Et c'est là que la machine se fissure pour de bon.
D'ailleurs, en parlant de ces biens communs, ça m'a fait réfléchir. On imagine souvent que l'éducation ou la santé, ce sont juste des bâtiments. Un bel hôpital en béton, une route goudronnée. Mais c'est pas que ça. En lisant les sources, je me suis dit que c'était plutôt comme une tour de Jenga.
Ah, j'aime bien cette image.
Bah oui, parce que le béton et les ponts, ce sont les pièces visibles de la tour. Mais il y a aussi des blocs invisibles, l'état de droit ou ce que l'étude appelle les canaux de médiation sociale. Et si on retire ces blocs-là...
La tour s'effondre, même avec le meilleur béton du monde. Les canaux de médiation sociale, c'est la capacité d'une société à régler ses problèmes sans violence. Un système judiciaire juste, une presse libre.
Si on construit un super hôpital, mais qu'il faut payer un pot de vin pour y entrer.
Bah, le bâtiment est là, mais le bien commun, il est totalement absent. C'est pour ça qu'on en arrive à la grande question de ce qui maintient ces tours de Jenga debout.
Et là, les sources font un saut dans le temps que j'ai trouvé génial. Jusqu'au XIVe siècle.
Oui, avec la fameuse allégorie du bon gouvernement.
Cette fraise de Sienne en Italie, ça parle de sagesse, de justice, de force, de paix. C'est très beau, très philosophique. Mais aujourd'hui, dans notre économie mondialisée, ultra rapide, comment on traduit ces vertus médiévales?
En fait, le séminaire les traduit par des métriques économiques très concrètes. La responsabilité gouvernementale, l'état de droit et la lutte contre la corruption. Et ce n'est pas juste de la théorie. Ça se mesure notamment via le carnet FDI Confidence Index.
Le FDI Confidence Index, c'est bien ça qui évalue ce que cherchent les investisseurs étrangers, les grandes multinationales?
C'est ça. Et les résultats vont complètement à l'encontre de ce qu'on imagine souvent.
Ah, attendez. Ça, je veux qu'on s'y arrête parce que ça m'a vraiment surpris. L'idée reçue sur le capitalisme, c'est que les multinationales cherchent juste l'endroit le moins cher. La main-d'œuvre la moins chère, les impôts les plus bas.
Tout le monde pense ça. Mais ce n'est pas le cas. Le critère numéro 1 pour ces investisseurs, avec 17% des réponses, c'est la transparence des régulations gouvernementales et l'absence de corruption. Pas le coût du travail. Pas l'innovation. La transparence.
C'est dingue.
Bah en vrai, c'est assez logique. Une entreprise qui construit une usine s'engage pour des décennies. Elle a besoin de prévisibilité. La corruption, pour un investisseur, c'est pas juste immoral. C'est une taxe totalement imprévisible.
C'est le risque de voir son usine confisquée du jour au lendemain. C'est un peu comme acheter un manoir magnifique à un prix dérisoire.
Sur le papier, c'est une super affaire.
Voilà. Sauf qu'on découvre que le quartier est en feu, que les pompiers demandent des enveloppes d'argent liquide pour intervenir et que le tribunal du coin valide de faux titres de propriété. Soudain, le manoir, il vaut plus rien. On préfère largement payer plus cher pour une maison dans un quartier sûr.
C'est une excellente analogie. Le capital fuit l'imprévisibilité. Et ça nous amène direct au phénomène le plus cruel dont parle Michel-Henri Boucher. Le paradoxe de l'abondance.
Des pays riches avec des populations extrêmement pauvres?
Exactement. C'est très contre-intuitif. On se dit qu'un pays plein de ressources naturelles devrait être hyper prospère. Mais la réalité, c'est que ces pays-là sont souvent ceux qui s'effondrent le plus lourdement.
C'est le paradoxe des économies basées sur les matières premières. On a les chiffres de l'Afrique subsaharienne qu'on a évoqués en introduction. 51% des exportations sont minières, mais ça ne génère que 8% des revenus fiscaux.
La richesse sort de terre, elle part sur des cargos, mais l'argent ne se transforme jamais en école. Et les modèles statistiques des sources font une comparaison internationale très cruelle.
Celle entre le Chili et certains pays pétroliers.
Oui. Le Chili y a su bâtir des institutions plutôt solides. Leur PIB par habitant tourne autour de 28 000 dollars et l'espérance de vie dépasse 81 ans. Et à l'inverse, regardez le Nigeria ou l'Angola, des géants du pétrole. Mais l'espérance de vie stagne entre 54 et 74 ans.
C'est un gouffre.
Un gouffre expliqué presque entièrement par la corruption. Le coefficient statistique montre que la grande corruption est liée irrémédiablement à un faible développement humain. Prenez la Somalie ou la République centrafricaine, c'est le même schéma.
Mais en lisant ça, je me suis posé une question, disons, un peu provocatrice. Est-ce que le simple fait de trouver du pétrole, ça ne tuerait pas carrément tout espoir de démocratie?
Comment ça?
Le contrat social de base, c'est l'impôt. Le gouvernement a besoin de mon argent, il me taxe, moi je paye, mais en échange, j'exige des routes et le droit de voter. Pas d'impôt sans représentation.
Le fameux « no taxation without representation ».
Voilà. Mais si l'État gagnait des viards juste en vendant du pétrole à l'étranger, il n'a pas besoin de taxer ses citoyens. Et s'il ne les taxe pas, il n'a aucune raison de leur rendre des comptes. Le citoyen devient économiquement inutile au gouvernement.
C'est exactement la définition de l'État rentier. La rente naturelle coupe complètement le lien de redevabilité. Le gouvernement ne gère plus un effort collectif. Il se contente de distribuer des faveurs pour acheter la loyauté de l'armée ou des juges et conserver le pouvoir.
Et ça, ça mène droit au mur. Mais du coup, comment on peut prévoir qu'un pays va basculer dans le chaos avant qu'il ne soit trop tard?
C'est là qu'interviennent les outils de diagnostic, comme le Fragile States Index du Fund for Peace. C'est un tableau de bord qui utilise 12 indicateurs de pression très précis.
Comme les pressions démographiques ou le déclin des services publics.
Oui. Et en haut de la liste, on retrouve tristement la Somalie, le Soudan, la Syrie. Mais les vrais signaux d'alarme, ceux qui clignotent en rouge juste avant le point de non-retour, ce sont la fuite des cerveaux et la fuite des capitaux.
Alors, parlons de ça, parce que le séminaire est très précis là-dessus. Il y a un lien avec la libéralisation économique, non?
Tout à fait. Michel-Henri Boucher identifie un vrai déficit institutionnel lié au stress de la modernisation. Un pays fragile veut s'ouvrir, libéraliser son économie très vite, mais s'il ne renforce pas ses institutions sociales et judiciaires en même temps, le déséquilibre crée des failles.
Et dans ces failles s'engouffrent les cerveaux et l'argent. Prenons la fuite des cerveaux. C'est pas juste qu'il manque 3 ingénieurs pour un pont. Quand tous les professeurs, le médecin, les entrepreneurs partent, on perd la classe moyenne.
La colonne vertébrale du pays.
C'est ça. Et historiquement, c'est la classe moyenne qui demande des comptes au gouvernement. Sans elle, il n'y a plus aucun contre-pouvoir.
Et le vide laissé par ses talents accélère la deuxième fuite, celle des capitaux.
Et alors ça? Les données là-dessus m'ont vraiment laissé sans voix. En fait, je voyais la fuite des capitaux comme un simple truc financier. Des gens qui cherchent de meilleurs taux d'intérêt ailleurs.
C'est bien plus cynique que ça.
Mais oui! Ce n'est pas juste de l'argent qui bouge, c'est la preuve chiffrée et physique du manque absolu de confiance des élites dirigeantes envers leur propre système. Si les ministres ou les généraux croyaient en leur pays, ils y investiraient, mais non.
Non, l'étude révèle qu'une proportion effarante de l'argent injecté dans ces pays, y compris l'aide internationale, est détournée. L'argent est siphonné et envoyé dans des dépôts bancaires privés à l'étranger, des comptes offshore.
C'est dingue. L'argent pour stabiliser le pays sert à remplir les poches des élites dans des paradis fiscaux.
C'est la rationalité des élites face à l'effondrement. Elles savent que la machine va casser, donc leur seul but, c'est d'extraire un maximum d'argent avant la chute finale. C'est glaçant, mais c'est cohérent.
C'est hyper cohérent. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu, un État défaillant, c'est pas la faute à pas de chance. C'est prévisible. C'est des institutions fragiles, des inégalités extrêmes et un pouvoir concentré, le tout mis en lumière par des chocs économiques.
Et la soi-disant croissance basée sur les matières premières, sans inclusion sociale, n'est qu'une illusion statistique.
Voilà, une illusion qui finit par exploser. Mais il y a un truc. Quelqu'un pourrait se dire « Bon, c'est tragique pour ce pays à des milliers de kilomètres, mais en quoi ça me concerne ?»
Sauf que, dans notre monde, l'instabilité ne s'arrête pas aux douanes. L'interdépendance rend l'isolement impossible.
Quand la machine explose, les débris volent partout sur la planète.
Absolument. Un État défaillant, c'est le point de départ de pandémie parce qu'il n'y a plus de système de santé. Ça déclenche des crises de la dette mondiale, ça offre des refuges pour les réseaux criminels ou terroristes.
Et bien sûr, ça provoque d'immenses flux migratoires, des millions de gens qui n'ont pas d'autre choix que de fuir. La défaillance d'un maillon menace toute la chaîne.
C'est pour ça que l'analyse de la gouvernance, c'est plus juste un sujet de morale politique. C'est devenu l'outil de gestion des risques le plus essentiel aujourd'hui.
Ce qui nous ramène à cette énorme machine qui grince. Ce séminaire nous a permis de voir la vrouille avant la casse. Mais en refermant ces documents, je suis resté bloqué sur une dernière réflexion assez vertigineuse.
Laquelle ?
Si on sait qu'une libéralisation rapide, sans institutions solides, mène au chaos. Et si on sait, avec des preuves irréfutables, que la fuite des capitaux, c'est en grande partie des financements internationaux détournés vers des comptes privés.
Oui.
Alors, est-ce que les prêts massifs accordés par les grandes institutions financières internationales, censés sauver ces pays, est-ce qu'ils ne finiraient pas, sans le vouloir bien sûr, par financer directement la corruption qui les transforme en états totalement défaillants ?
C'est la grande question, et ça remet beaucoup de choses en perspective.
C'est clair. Une vraie bombe à retardement à méditer pour ceux qui nous écoutent. C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage avec nous.